supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pourunequonstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Bon, nous y sommes. Et c'est reparti pour un quinquennat Macron, avec tout ce que cela va entraîner de mécontentement. Bienvenue chez nous. Grève, manifestation. Car avec 17 millions d'abstentions et de votes blancs, soit un tiers des électeurs, forcément, beaucoup de Français ne voulaient pas ni la peste ni le choléra. Ils resteront mécontents, avec un président sans majorité absolue. Qu'est-ce qui sera au centre des préoccupations des Français et de leurs représentants? Ce seront les salaires? Le pouvoir d'achat? La retraite? La santé? L'école? Le climat? Rien ne va. Comment faire des réformes de gouvernance quand rien ne bouge? Ni lors d'élections présidentielles, ou de législatives, ou de départementales d'ailleurs? Nous avions vu, lors de ces chroniques, que la Ve République était un régime parlementaire doté d'un pouvoir présidentiel fort. Le pouvoir exécutif qui collabore avec le pouvoir législatif. L'Assemblée nationale et le Sénat. Comme le dit André Bellon de notre association pour une constituante, et je lis le passage tiré de son livre « Pour la souveraineté du peuple », le philosophe Sénèque dit « Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. » Espérer ou vouloir? Dans les périodes de grande crise, espérer, c'est se soumettre. Alors, retrouvons le vouloir. Oui, chers citoyens, encourageons-nous. Sortons des grandes promesses non tenues ou des programmes de casse sociale. C'est au peuple aujourd'hui de s'imposer, de vouloir une vie politique démocratique. Ne nous laissons pas traiter ainsi. C'est un combat certes difficile, puisqu'on nous prend pour des idiots et que nous avons cette incapacité politique de vouloir. Les citoyens représentent la masse salariale, celle qui produit les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'elle mérite. 90% des actifs de notre pays sont salariés quand même. Revenons sur le but de mes chroniques. Faire connaître la Constitution française. Et je l'ai déjà dit et je le pense sincèrement que la formation politique nous serait bien nécessaire pour faire face à nos politiques et pour défendre nos droits et créer ainsi en France des assemblées constituantes citoyennes. Il est grandement temps de se réapproprier notre espace politique. Je résume rapidement la précédente émission sur le rôle du président pour ceux qui ne m'auraient pas suivi. Quels sont les pouvoirs qu'exerce seul le président, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres? Ils sont limitativement énumérés par l'article 19 de la Constitution que j'avais lu. Donc, nommer le Premier ministre par l'article 8. Soumettre un projet de loi au référendum, article 11. Prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, article 12. Exercer les pouvoirs exceptionnels, article 16. Communiquer avec le Parlement, article 18. Saisir le Conseil constitutionnel sur un engagement international, article 54. Ou d'une loi, article 61. Et nommer trois de ses membres ainsi que le président du Conseil constitutionnel, article 56. Tous les autres pouvoirs du chef de l'État sont des pouvoirs partagés, c'est-à-dire des pouvoirs soumis à la signature du Premier ministre et le cas échéant des ministres responsables, soit ceux qui préparent les lois et appliquent les actes du président. Il s'agit par exemple de la nomination des ministres, article 8, ou de la signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres, article 13. Si les pouvoirs propres peuvent être exercés par le président, quelle que soit la conjoncture politique du moment, y compris donc en période de cohabitation, les pouvoirs partagés supposent un accord entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. En période de concordance des majorités présidentielles et parlementaires, ce qui était le cas avec le premier quinquennat de Macron, le chef de l'État préside le Conseil des ministres, article 9 de la Constitution, et joue un rôle déterminant dans l'exercice de ses pouvoirs partagés. Le gouvernement constitue la seconde moitié de l'exécutif, mise en place par la Constitution de 1958. Je vous l'avais lu, bien sûr, vous pouvez retourner sur ces articles, je vois que Poupa est en train de tourner les pages de notre Constitution, et vous pouvez le faire. Il se compose alors, ce gouvernement, de ministres nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Le gouvernement est chargé par la Constitution de déterminer et de conduire la politique de la nation. Le Premier ministre détient le pouvoir réglementaire. Il joue également un rôle central dans la procédure législative, puisqu'il dispose du droit d'initiative et de la maîtrise d'une partie de l'ordre du jour du Parlement. Alors, suite à la réélection du président Macron, on entend par nombre de mécontents qu'il va falloir résister pour ne pas lui laisser la majorité à l'Assemblée nationale cette fois-ci. On se rappelle les précédents résultats des législatives qui avaient permis à notre cher président de gouverner avec une majorité absolue, puisque 350 sièges sur 577 avaient été attribués en 2017 au parti La République En Marche et au Modem. Le parti Les Républicains devenait le premier parti d'opposition avec 112 élus. Le Parti Socialiste enregistrait une très sévère défaite avec l'élection seulement de 30 parlementaires. La France Insoumise était parvenue à se constituer un groupe de parlementaires, environ 17 élus. Le Rassemblement National avait alors 8 élus à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, chers auditeurs, mais je m'adresse finalement à tous les Français, mais tout le monde ne m'entend pas, ne m'écoute pas, mais je vous le dis, allez voter pour les élections législatives en juin et votez à gauche pour pouvoir obtenir une majorité de l'opposition qui pourra alors faire obstacle au programme antisocial de Macron. Je vous laisse une petite pause parce que, oui, on a déjà énuméré pas mal d'articles. Je ne voudrais pas être ennuyeuse. Mais je vais vous laisser une petite chanson parodie des goguettes. Macron-Le Pen.
Franchement, c'était bien la peine de faire campagne pendant des semaines pour retrouver le même tandem. Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. Il y a bien eu un peu de suspense sur l'identité du deuxième, mais c'est encore la même rengaine. Macron Le Pen, Macron Le Pen. Mélenchon est éliminé, il n'arrive pas à se qualifier. Finalement, il a le niveau pour jouer au PSG. Au PS, quelle déliquescence! Le score d'Anne Hidalgo en France, c'est même pas le prix d'un litre d'essence. Macron, Le Pen. Éric Zemmour est devenu blême, car excepté dans le 16e, il fait pas le poids face au RN. Merci l'Ukraine, merci l'Ukraine. Lui qui se rêvait en Poutine, en grand remplaçant de Marine, il a fini à quel coup dur, comme Baladur. Comme Baladur, vous n'auriez pas une petite pièce pour sauver Valérie Pécresse. Les LR sont en PLS. Ah, quelle tristesse, en être réduit à faire la cloche. Attendez, il y a quelque chose qui cloche. D'habitude à droite, le pognon, c'est un coup de fil à Pygmalion. Elle va devoir attendre la planète, avec ces deux-là en tête, l'écologie est bien en peine. Macron Le Pen, Macron Le Pen. Même si pour lutter contre l'abstention, Macron a eu une révélation, et on va devoir vivre pauvres et riches, comme des amiches, comme des amiches. Au fait que jamais ne parvienne une France France livrée à l'extrême, car l'écart est serré quand même. Macron Le Pen, Macron Le Pen. Est serré quand même. Macron Le Pen, Macron Le Pen.
Donc, je reprends. Titre 3 de notre Constitution, le gouvernement, avec 4 articles. Donc 4 articles, je me permets de vous les lire. Article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. Article qui parle, entre autres, de la responsabilité du gouvernement et de ses décisions. Donc, je ne parlerai pas d'eux. Le Premier ministre dirige donc l'action du gouvernement. Dans les faits, les principales décisions étant prises en Conseil des ministres, cette compétence gouvernementale est partagée avec le président de la République, lorsque celui-ci dispose d'un premier ministre appartenant à sa famille politique. Mais ça n'a pas été toujours le cas. On va voir que si le président a tous les pouvoirs, lorsqu'il a surtout une majorité absolue à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Voyons ce que dit l'article 21 qui me semble le plus important sur ces 4 articles. Le premier ministre dirige l'action du gouvernement. Il est responsable de la défense nationale, il assure l'exécution des lois sous réserve des dispositions de l'article 13. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. Article qui rappelle que le président de la République est le chef des armées. Il peut, à titre exceptionnel, ce premier ministre, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres, en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Reprenons par cet article 21. Le premier ministre personnifie et représente le gouvernement. Et à ce titre, parle en son nom. Il exerce une autorité politique sur les membres du gouvernement qui se traduit notamment par un pouvoir de coordination de l'action gouvernementale et d'arbitrage en cas de divergence. Il détient un pouvoir réglementaire. C'est donc à lui qu'il appartient de prendre les règlements nécessaires à l'application des lois. Ceux-ci sont contresignés par le ou les ministres chargés de leur exécution. Ce pouvoir réglementaire est toutefois partagé avec le président de la République pour les décrets et les désignations aux emplois supérieurs pris en Conseil des ministres. On le voit bien, le premier ministre, par cet article 21, qui est plus complet, on va dire, on le voit bien, le premier ministre exerce un rôle important dans la procédure législative. Il est tout d'abord le seul au sein du pouvoir exécutif à disposer de l'initiative des lois, à l'exception des projets de loi constitutionnelle dont l'initiative appartient au président de la République. J'espère que vous me suivez. Il choisit l'Assemblée devant laquelle sera déposé le projet de loi, à l'exception des rares cas où une priorité d'examen est prévue par l'article 39, article qui rappelle que l'initiative des lois appartient au Premier ministre et aux membres du Parlement. Donc, notre Constitution est ainsi faite. Le Premier ministre maîtrise une partie de l'ordre du jour du Parlement. Il choisit les amendements déposés au nom du gouvernement. Il peut décider d'opter pour certaines procédures, procédures accélérées, convocation d'une commission mixte paritaire, vote bloqué, etc. Enfin bref, des termes politiques que je ne m'amuserai pas à traduire. Il a aussi, cependant, ce Premier ministre, d'autres attributions, et cela sans consulter le Conseil des ministres. saisir le Conseil constitutionnel des lois votées avant leur promulgation, article 61, et des engagements internationaux, article 54. Demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, article 49. Décider, après consultation du président de l'Assemblée concernant, de faire siéger une Assemblée plus de 120 jours au cours d'une même session ordinaire, article 28. Demander au président de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire, article 29. Demander au président de la République de prendre l'initiative d'une révision de la Constitution, article 89. Donner un avis au chef de l'État sur une dissolution éventuelle de l'Assemblée nationale ou sur un recours au pouvoir exceptionnel de l'article 16. Le Premier ministre peut exceptionnellement suppléer le président de la République pour présider le Conseil des ministres. On peut comprendre que les pouvoirs de l'exécutif sont partagés et que même si notre président a tous les pouvoirs, le Premier ministre peut être très influent sur la gouvernance du pays, voire même le perturbateur. Et c'est sur tout cela que M. Mélenchon s'appuie. Et moi je dis que, oui, il serait nécessaire de voir pour le prochain quinquennat Macron une Assemblée nationale de l'opposition. Chers auditeurs, c'est pas gagné. Il ne reste plus que deux articles sur le titre 3 de notre Constitution, le gouvernement. L'article 22. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Je n'apporte pas plus d'explications, car je trouve que cet article, finalement, il est redondant, compte tenu de tout ce qui est explicitement dit dans l'article 21, que vous pouvez relire dans notre Constitution. Bon. Poupa, tu n'es pas tout à fait d'accord ?
Non, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est que cet article introduit la notion de co-responsabilité avec les ministres qui contresignent les lois.
C'est bien, ouais, voilà. Tu pouvais le préciser effectivement.
C'est ça qui est intéressant. On signe une mauvaise loi, et ben, son nom reste gravé, on saura à qui aller se plaindre par la suite.
Bon, comme quoi, vous voyez, chaque article est quand même intéressant pour défendre le contrat social de notre société. Bon, alors, je passe quand même à l'article 23. Article 23. Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique, d'ailleurs, fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats. Fonctions ou emploi. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25. Article 25, qui fixe, pour le coup, lui, la durée des pouvoirs de chaque Assemblée, les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité et de leurs indemnités.
Enfin, là, ça détermine que c'est une loi organique. C'est d'ailleurs pour ça que changer le mode de scrutin du scrutin majoritaire à deux tours au scrutin proportionnel à un, deux ou ce que vous voulez comme tour, proportionnel, ça existe. Oui. Ça existe, il y a certains pays qui ont des proportionnels à trois tours, justement, ou une proportionnelle partielle et tout ça, ne nécessite pas de changer la Constitution, puisque cet article que tu es en train de lire précise que c'est une loi organique qui détermine tout ça. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour changer les modes de scrutin en France. Donc il suffit de changer la loi, et ça a changé la loi, comme ça va vous être expliqué un peu plus loin dans la Constitution, c'est le Parlement qui s'en charge.
Voilà, et là, les règles fixées par Matignon vont dans le sens d'un non-cumul des mandats pour les ministres et pour les députés. Une loi tacite ou juste des recommandations? Je me pose encore la question. C'est Lionel Jospin, en 1997, qui avait initié le non-cumul d'un poste de ministre et celui de maire, deux postes clés de l'exécutif dans notre pays. Loi reprise par M. Raffarin en 2002. Loi reprise par M. de Villepin en 2005. appliquée ou recevable qu'en 2012, sous la présidence de François Hollande, dans le cadre d'une charte de déontologie signée par tous les ministres. Cependant, la loi de février 2014 reprend ce terme de non-cumul des mandats pour les députés nationaux et européens entre autres, celui d'exercer une fonction de maire ou d'un exécutif local comme un président de région ou de département. Eh bien, malgré ces règles, avec deux articles, l'article 23 et 25 de notre Constitution, eh bien, ces règles ont effectivement souffert d'exceptions. Comme par exemple celui de M. Jean-Yves Le Drian, qui était alors ministre de la Défense et en même temps président de la région Bretagne. Aïe, aïe, aïe. Montesquieu disait « Pour qu'on puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » J'attaquerai jeudi prochain le titre 4, le Parlement, avec ses 14 articles. Déterminant pour mieux comprendre par la suite l'importance des prochaines élections législatives. Merci pour votre écoute. Restez connectés, chers auditeurs, et écoutez Radio Doc. L'avenir nous appartient. À la semaine prochaine.